présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Je ne sais pas. Vous, vous êtes plus sérieux, moral. L'autre ne peut être qu'une bête, une bête terrible. Gaïen lui dit. C'est donc que vous l'avez déjà vu. Et où est-il?
Je ne sais pas. Il est peut-être déjà chez vous.
Comment?
Une personne que vous côtoyez souvent et aimez bien.
Qui?
Protégez-vous bien. Et ayez confiance en personne.
Qui est-ce?
Non.
Votre nom, madame?
Mais je peux vous dire le mien. Je suis madame Adélaïde Morel.
Et qui êtes-vous?
J'étais la première maîtresse de Jeune-Toux. Vous ne vous souvenez pas?
Peut-être, mais les femmes changent tellement facilement.
Elle sourit et lui dit. J'ai plus rien à vous dire d'autre. Au revoir, monsieur.
Et elle le quitte. Une fois qu'elle est partie,
Galien prend son téléphone. Allô, faites suivre cette femme qui sort de mon bureau. Urgent. Merci.
Mmh. Une heure plus tard, on téléphone à Galien.
La femme a pris une Rolls noire. Nous l'avons malheureusement perdue.
Merci. Cherchez-moi tous les renseignements sur Adélaïde Morel. Merci.
Une semaine plus tard, l'on dit à Galien qu'aucune personne ne s'appelle comme ça. Mystère ou une folle. Les jours passent. Galien, après dîner, se sent là.
Il va dans la salle de bain pour prendre sa douche.
Il a décidé, c'est d'aller se coucher tout de suite après son repas.
Dans sa chambre, il se met au lit.
Une fois dans son lit, il s'endort d'un coup, d'un sommeil sans rêve. Sommeil profond, le trou noir. Il n'entend pas, ne sent plus, il est comme en dehors du monde.
De sa chambre s'ouvre. Quatre hommes, habillés de costumes noirs, entrent dans la chambre. Le soulève. Deux par les jambes
et deux par les pieds. Elles sortent de la chambre. Galien dort tellement profondément qu'il n'entend ni ne sent.
Une fois dehors, on l'amène à une voiture. On le met à l'intérieur de la voiture, sur le siège, entre deux hommes. Et la voiture est partie dans la nuit. Après plusieurs heures de route, la voiture s'est arrêtée devant le château. Galien dort toujours aussi profondément. Guillaume et les domestiques sont dans leur lit et eux aussi dorment très profondément.
On mène Galien dans les sous-sols du château.
Le même parcours que vous avez déjà fait, que vous connaissez déjà. Il est mené dans la pièce où il y a une espèce d'autel. La pièce est remplie de monde, éclairée par des torches. Pour la plupart, ce sont des hommes. Ils sont habillés d'une cape blanche avec dessus un soleil stylisé en rouge. L'on mène devant l'autel Gallia. On le couche sur un lit blanc dessus l'autel qui est en plus recouverte en entier d'un tissu blanc avec un soleil au centre. Il y a à côté de l'autel d'amphores, Riquin et trois autres hommes. Un des trois hommes, grand, à cheveux et barbe blanche, s'approche de l'assistance et dit
« Voici l'élu, le vrai, le seul, celui des sept soleils. Grâce à lui, à son fluide, nous allons atteindre la perfection. Nous allons connaître l'absolu, la vérité sur le monde. L'élu est tout puissant. Il a même l'ADN de Dieu. Il est le fils de Dieu. Grâce à lui, à son fluide, à son ADN, à l'ADN, nous allons réussir à devenir immortels. Nous allons aboutir au paradis. Seul lui a le pouvoir de nous y mener. Et pour aboutir à l'immortalité, au paradis, il nous faut l'aider. Et pour cela, il faut travailler sans relâche pour lui. Vous devez tout quitter, tout donner à l'élu. Votre vie, votre corps, votre âme. Abandonnez ce monde, votre famille, travail. Ne vivre que pour l'élu, ne travaillez que pour l'élu. Le seul à qui vous devez obéir et qui a pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui vit. L'élu peut tout changer. Les végétaux, les animaux, les hommes. Il transforme les légumes, les fruits, les bêtes. Il crée de nouvelles espèces d'hommes pour servir l'homme. Et l'élu veut tout transformer pour vous rendre plus fort, plus près de la vérité, pour aboutir à l'immortalité. Mes frères, vous devez jurer fidélité à l'élu et tout lui donner, corps et âme, jurer.
La foule dit,
je jure fidélité et donne mon corps et mon âme pour qu'ils s'en servent pour la recherche de la vérité.
Ensuite, l'homme leur dit,
vous allez passer les uns derrière les autres, devant l'élu, et lui baiser les mains en signe de respect.
On fait mettre les gens les uns derrière les autres et on les fait passer devant l'élu. Gallien dort toujours et cela rend son visage très pur et d'une très grande beauté. On lui baise la main. Une femme dit,
on dirait un ange.
Une autre, Leonardo DiCaprio dans Roméo. puis, une fois qu'ils sont passés, avant qu'ils ne partent, on leur fait signer à chacun un papier comme quoi ils font don de leur corps et de leurs biens à la société au groupe Jeune Tout. Ensuite, on ramène les gens en car à Paris. Galien est mené à Paris en voiture, toujours endormi. L'enfant et Ricain sont dans une autre voiture qui suit celle de Galien. L'enfant demande:
voilà une bonne chose de faite. Combien d'adhérents?
500.
L'enfant demande:
de quel milieu?
Ricain lui dit:
comme toujours, cadre, PDG, chercheurs de toutes sortes, professeur et même un prêtre et 5 ministres.
D'enfort dit: très bien, les caisses se remplissent. Faudra les éliminer petit à petit pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Et avant, leur famille, pour éviter les protestations des testaments et les jugements. De leur vivant, ils auront leurs aides, des informations et quelques dons. Ensuite, nous prendrons leur famille. Puis, nous éviterons des corps pour la science. Voilà une bonne chose. Le paradis, ne pas oublier de leur dire, c'est que le paradis, c'est le nouveau continent. Comme ça, ils nous aideront financièrement. Parce qu'ils voudront aller vivre là-bas. Malheureusement pour eux, ils seront morts avant la fin de tout ça.
Arrivé à Paris, on remet au lit Galien. Voiture, d'enfort dit à Ricain:
c'est bizarre, n'en fais ça. Au fond, les sept soleils, ce n'est pas de l'escroquerie. Et l'élu, c'est bien l'élu. Alors ce que nous faisons, ce n'est pas digne de l'œuvre. Et c'est un crime de se servir de l'élu comme ça, et des sept soleils.
Galien, avant d'aller se coucher le soir, aime bien se promener seul pour remettre ses pensées en place, surtout après une journée avec plein de problèmes à résoudre. Un soir, que ses parents l'ont mené rue Saint-Jean, car la plupart du temps, il marche sans savoir où il va et prend au hasard une rue, et d'une rue à une autre, cela le mène quelque part dans Paris. Et ce soir, c'est rue Saint-Georges. Il sait que pour le retour, il devra prendre le métro au boulevard Saint-Georges. La rue est presque déserte et mal éclairée. Les magasins sont déjà fermés. Seuls quelques cafés et restaurants restent ouverts d'une façon discrète, avec une lumière jaune vue de l'extérieur et peu éclairée. Galien voit arriver à lui un vieil homme dans les 70 ans. Il est maigre, de taille moyenne, barbe et cheveux blancs, lunettes en métal, habillé d'une façon vieux jeu et sans goût, avec un costume gris trop grand pour lui, un foulard marron autour du cou trop long, un chapeau mou marron déformé. D'ailleurs, tous ses vêtements sont froissés, le pantalon est en accordéon. Les chaussures sont de vieux grelots de cuir noir. Le vieux marche les jambes légèrement arquées, les mains dans le dos. Il s'arrête devant Galien et lui demande
« Vous n'avez pas de cigarette, s'il vous plaît ?»
Galien lui dit « Non, je ne fume pas. » Le vieux le regarde et lui dit
« Qu'est-ce que tu fais alors ? Tu aimes boire ?»«
Non, monsieur. » »«
On ne dit pas non, monsieur. Moi, Bouchot, Henri. » Tu sais, mon petit, la vie est très fade. Il faut avoir quelque chose. Si c'est pas la cigarette, ça doit être autre chose.
Galien lui demande, et vous?
Moi, c'est les livres et les gâteaux.
Alors pourquoi m'avoir demandé une cigarette? Le vieux lui répond,
c'est un prétexte pour discuter. Si j'avais dit que j'aime les livres scientifiques et la poésie, tu m'aurais pris pour un fou, non?
Il le regarde bien. Il lui demande
qu'est-ce que tu fais dans le quartier?
Je me promène.
Tu te promènes? C'est rare de voir les gens se promener comme ça. Et à pied?
Oui, à pied. J'aime bien marcher.
Le vieux lui dit oh, toi, t'es un cas. Tu t'appelles comment?
Galien Diap.
Henri lui dit drôle de nom, mais qui sonne bien. Si tu veux, on va boire un verre.
Galien hésite, on ne sait jamais. Le vieux lui dit
« N'aie pas peur, tout le monde me connaît. Je vais ici comme dans un village. Viens. »
Galien le suit et ils entrent dans un petit café. Il y a quelques tables presque les unes contre les autres. Quelques vieux qui consolent. Le bistroquet, un gros moustache, vient vers eux.
Alors, qu'est-ce que je te sers, Henri?
Le vieux cligne des yeux et dit
tu vois, tout le monde le connaît.
Bistroquet dit à Galien
c'est notre philosophe.
Galien dit philosophe?
Henri dit j'ai été professeur de français et maintenant je suis à la retraite. Mais j'aime bien discuter un peu de philosophie à ma façon, comme ça. Ça fait 50 ans que j'habite le quartier. Alors, bien entendu, tout le monde me connaît.
Bistroquet dit.
Oh oui, on le connaît. Il a passé des heures et des heures ici à discuter sur le monde, comme il va.
Galien se dit. Ça doit être le café du commerce. Le bistroquet demande.
Alors, qu'est-ce que je te sers?
Le vieux dit.
Comme d'habitude, un rouge.
Galien dit. Moi, un jus de tomate. Le vieux dit.
Il ne fume pas, il ne boit pas, aucun plaisir. C'est ça la jeunesse, à part leur musique et la drogue, bien sûr. Mais ce n'est pas du plaisir, c'est du remplacement, du repliement pour soi. C'est un peu du suicide, de l'antisocial.
Le bistroquet dit.
Je vous laisse, parce qu'avec lui, on n'a pas fini.
Henri demande à Galien,
qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Galien lui répond gêné, suis dans une entreprise et je vends.
Quoi?
Des ordinateurs. Henri fait la grimace.
J'aime pas cette chose.
Le cafetier leur apporte leur boisson.
J'aime mieux un bon vieux livre. Un bon vieux livre de poche. J'en ai toujours un dans ma poche.
Il sort un vieux livre de poche tout usé à page jolie.
C'est facile, il faut pas de courant. Rien, et ça peut se lire n'importe où.
Galien lui dit, oui, mais vous pouvez pas avoir internet.
Il lui hausse ses épaules. À quoi cela servira-t-il? Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe à 5000 km de chez moi. Moi, du moment que je sais ce qui se passe dans ma rue, cela me suffit. L'homme n'est pas fait pour savoir le monde, mais ce qui l'entoure. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir ce qui se passe à Chicago alors que je ne peux pas y aller? Galien lui dit, oui, mais ce n'est pas bien non plus d'être replié sur soi. Je ne suis pas replié sur moi-même, mais le monde. Je peux tout aussi bien le penser sans avoir constamment des informations.
Galien regarde son montre et lui dit, je crois que vous êtes obligé de vous laisser. Il se fait tard et je dois rentrer.
Il lui demande, tu rentres à pied?
Non, c'est un peu trop loin.
Tu habites où?
Place de l'Étoile.
Oh, chez les Rupins.
Galien rougit. Le vieux lui dit,
tu n'as pas à avoir honte d'être riche, bien entendu. Ton argent est gagné honnêtement.
Galien lui dit, oui, je le crois. Il se lève, le vieux aussi. Se dirige vers la sortie. En passant devant le comptoir, Galien demande, je vous dois combien?
Henri dit, laisse, c'est ma tournée. Polo, mets sur mon compte. Bien, Henri.
Galien lui dit, merci, ne me fallait pas. Et il sort du café.
Une fois dehors, Henri lui dit,
pour une fois que je paye à boire à quelqu'un.
Merci.
Henri lui dit, je t'accompagne jusqu'à ton métro.
Merci. Et il se dirige boulevard Saint-Jacques.
Henri lui demande,
tu vis seul?
Oui, enfin, pas vraiment.
Ah, je vois, avec une copine, que l'on dit.
Galien rougit et lui dit, non, un ami.
Le vieux lui dit, ça tient tout aussi bien compagnie. Moi, j'ai été marié. Ma femme est morte il y a de cela fort longtemps. À mes débuts où j'étais ici. Nous avons tout juste eu le temps de faire une fille. Ma fille, je l'ai élevée jusqu'à la 18 ans. Après, elle m'a quitté. Elle a voulu vivre avec sa tante. Maintenant, je ne la vois presque plus. Elle a honte de son vieux père. Elle aurait aimé, c'est que je devienne un professeur estimé et non un vieux monsieur qui traîne mal habillé. Elle joue à la dame. Son mari est directeur d'une grande compagnie chimique et biotechnique. La maison jeûne tout, je crois. Elle mène la grande vie. Son mari est haut placé et il paraît qu'il voit les grands manitous de son entreprise plusieurs fois par jour.
Galien lui demande, intrigué, comment s'appelle cet homme si puissant?
D'enfer, presque d'enfer. Je ne l'ai vu qu'une ou deux fois. Il me regarde de haut, avec son côté sec. Bien sûr, monsieur fréquente les ministres. Moi, j'ai élevé ma fille, sa femme, qui semble oublier. C'est pas bien d'avoir un père. Un pauvre homme comme moi. Malgré toute leur richesse, je suis sûr qu'ils sont moins heureux que moi. Moi, pour être heureux, il faut un livre, un morceau de pain et du fromage. Eux, des voitures, des appartements,
avec tout le confort, télévision, ordinateur. Ils doivent dépenser en un jour ce que je dépense en un an. Ils doivent être blasés de tout ce qu'ils ont. Moi non, je vis dans ma chambre, sans télévision, sans téléphone, sans four micro-ondes, sans machine à laver. Pour me déplacer, j'ai pas besoin de voiture. Mes pieds me suffisent.
Galien se dit que si tout le monde vivait comme lui, le commerce irait encore plus mal. Mais il aime bien ce vieux monsieur. Et puis, c'est le beau-père de Danfort. Désormais, chaque fois qu'il le verra, il verra son beau-père trottinant, à cheveux et barbe blanche, le pantalon en accordéon. Il n'a jamais vu sa femme, mais ça doit être comme lui. Elle doit jouer la femme du monde comme les parvenus. Il se dit que si le vieux avait besoin d'aide, il ne l'aiderait même pas. Il le laisserait mourir de faim et de manque de soins. Parce qu'un vieux comme lui donne honte à une famille. Arrivé au métro, le vieux lui dit
au revoir.
Galien lui dit je repasserai. Le vieux sourit et lui dit
tu as un côté sympathique, tu me plais.
Galien lui dit toi aussi, donne-moi ton adresse. Le vieux sort de sa poche un vieux bout de papier et un crayon. Il la marque et la lui donne. Galien descend pour prendre son métro. Arrivé chez lui, il repense au vieux. de penser au vieux, cela le change de tous ses problèmes et se dit que lui, au moins, n'a pas besoin de toutes ces choses pour vivre et qu'il a peut-être raison. Deux semaines plus tard, il décide d'aller voir le vieux chez lui. C'est rue Saint-Jacques, un immeuble qui est au fond d'une cour. Vous passez par un passage qui fait aller. L'immeuble qui est sur la rue a 3 étages. Il est sombre, sans âge. Le passage est un trou noir qui donne dans la cour. Aux escaliers de l'immeuble, il y a les boîtes aux lettres. La cour est petite. Il y a un arbre rabougri. Au fond de la cour se trouve l'autre immeuble et à côté des escaliers qui mènent à une autre cour d'immeuble. Et l'immeuble a 2 étages. Il faut monter les marches pour aller à l'allée. L'allée est petite, escalier de bois, ça sent la poussière. Il y a 2 appartements par étage. Le vieux monsieur est au dernier étage, porte gauche. Galien est venu avec une bouteille de vin.
Il sonne à la porte, il est 20h30. La porte est ouverte, c'est Henri, les cheveux défaits, habillé de la même façon. Bonjour. Je vous dérange pas?
Non, pas du tout.
J'avais dit de venir. T'as bien fait. Entre. Galien entre. Il ferme la porte. Galien étend la bouteille. Tenez. J'avais pas encore vous apporter, alors j'ai pensé qu'une bouteille de Bourgogne.
Merci, c'est très gentil. Nous allons l'ouvrir. Entre.
Un petit couloir qui a une fenêtre dans la cour. Et une pièce avec un coin cuisine, c'est-à-dire évier en pierre, cuisinière et réfrigérateur. Il y a un coin avec un lit à une place recouverte d'une couverture rouge par-dessus, mais le lit n'a pas été fait. Puis une table ronde, des chaises autour, un fauteuil, une grande bibliothèque vitrée avec énormément de rayons. Le sol, c'est du lino gris. La tapisserie à fleurs est défraîchie. Les meubles sont sans âge et usés. Henri lui dit,
c'est pas Versailles chez moi, mais assieds-toi.
Il monte une chaise à table. Il va s'asseoir. Lui va chercher à l'évier deux verres qui égouttent et un ouvre-bouteille. Puis va à table. Tourne vers Galien et serre. Tiens. Merci. Une fois qu'il a servi, il s'assoit en face de Galien.
Après avoir bu une gorgée,
pas mauvais.
Et regarde autour de lui, il dit,
ça fait 30 ans que je vis ici. Je m'y suis habitué.
Galien lui dit, vous avez beaucoup de livres?
Oui, j'aime bien lire, comme je te l'ai dit. J'aime la poésie, mais je trouve que la poésie est morte parce que la science n'est plus rêvée. Comme ça, on n'a plus besoin de la poésie. Rimbaud, mon poète de toujours, est devenu scientifique, ou plutôt a fait le pont entre la science et la poésie.
Galien lui demande, comment ça ?
Henri lui dit,
à la même époque, Rimbaud et Pasteur font la découverte de l'invisible et au-delà des apparences, font voir un autre monde que celui que l'on voit. Pour l'un, c'est le monde de l'infini petit, microbes, bactéries. Pour l'autre, c'est la transformation du vrai, de ce que l'on voit, les illuminations. Voir au-delà des apparences. Les illuminations, c'est voir autre chose que ce que l'on voit. Cela l'a mené à la science, parce qu'elle lui permettait d'approfondir ce qu'il voyait et de comprendre. La dernière période de sa vie, il est devenu scientifique à force de vouloir voir les choses à travers les apparences. Vous m'avez compris ?
Galien lui dit.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi aussi, j'aime beaucoup Rimbaud.
Henri dit, pensif.
Mais moi, personnellement, je suis trop vieux. J'aime les livres, la vie simple. La campagne, une petite maison. J'aime mieux le monde des poètes que celui des scientifiques.
Galien lui dit, moi aussi, pourtant je suis en plein dedans, mais je trouve que c'est un monde froid,
Henri lui dit.
Oui, en voulant concrétiser nos rêves les plus fous, l'on tue le rêve et l'on risque de s'ennuyer. Le rêve sublimé, d'être dans une île déserte et d'avoir tout à créer, à penser, comme Robinson Crusoe. L'horreur, c'est de se trouver dans un monde où tout est déjà prêt, prévu, qu'il ne reste rien à vouloir, à rêver. Une vie sans la place pour le rêve, c'est une vie d'ennui, de mélancolie, où l'on est prisonnier d'une société matérialiste et autoritaire. Si on fait entrer chez les gens par accoutumance des pensées, des cultures subies plus que voulues par la télévision, radio, journaux, internet, etc., l'on robotise l'homme et l'on peut en faire ce que l'on veut. C'est faux de croire que l'on élève le niveau culturel d'un peuple parce qu'il reçoit chez lui presque malgré lui, de nombreuses chaînes de télévision. On a multiplié les chaînes
mais les programmes sont pas tous pareils. » Galien lui dit, « Vous avez raison, mais les gens ne sont pas forcés d'accepter tout ça. La preuve, vous, vous avez décidé et vivez votre culture. » Henri lui dit,
« Oui, mais il faut une grande force de caractère pour ça. »
Vous voulez encore boire ?
Non, merci.
Et il se sert encore un verre de vin.
Et dit, Jules Verne avait de la chance. Pour écrire ses livres, il y avait encore une distance entre l'imaginaire de l'artiste et scientifique. Maintenant, c'est presque le scientifique qui va plus vite que l'artiste. Écrire, quelle science-fiction, quel futur. Il reste encore aux écrivains le fantastique, mais pour combien de temps? Le merveilleux, les contes. La nouvelle technologie scientifique risque de rendre le fantastique, le merveilleux, fade. C'est la fin de la création. Oui, c'est la fin de la création artistique. Dans les maisons, il y a la vidéo bazar, la musique ordinateur, les films de science-fiction américains. On a tué l'amour par le sexe et la poésie par la science.
Galien lui dit, oui, bien sûr. Et il continue à parler comme ça. Galien sent qu'il faut le laisser parler, que ça lui fait plaisir.
Se voient souvent comme ça.
Galien ne dit rien de ses relations de peur qu'on le critique et puis d'enfort pour que d'enfort soit gêné. Les jours passent.
Chez le vieil homme. Pas de réponse. Il sonne encore. Pas de réponse. Toujours pas de réponse. La porte qui est en face est ouverte.
C'est une petite femme maigre, à cheveux blancs, est en robe de chambre rouge. Elle lui dit, « Vous cherchez Monsieur Henri ?»«
Oui, madame. »
Il est tombé dans la rue ce matin. Une ambulance l'a prise. Il se sentait pas bien ces derniers temps. Il mangeait très peu.
Vous savez où il était hospitalisé ?
Elle lui dit. Oui, à l'hôpital du Faubourg Saint-Jacques. Je le sais, parce que j'étais présente lorsqu'on l'a ramassé.
Galien lui dit. Merci, madame.
Vous êtes de sa famille ?
Non, un ami. Elle lui dit.
Très peu de personnes venaient le voir, mais dans le quartier, on l'aimait bien.
Galien lui dit. Oui, je sais. Et lui aimait beaucoup son quartier. Je vais aller à l'hôpital avoir de ses nouvelles. Merci. Et au revoir, madame.
Et la dame referme la porte de son appartement.
Et il se dirige vers l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il va à l'accueil. Il demande à une dame en blouse blanche, rousse, dans les 40 ans. « Bonjour madame, j'aimerais avoir des nouvelles de monsieur Henri Bouchard. »
Elle lui dit « Les visites ne sont pas permises à cette heure. »
Il lui dit « Je sais, mais je veux simplement avoir de ses nouvelles. »
Elle lui dit « Vous êtes de sa famille ?»«
Non madame. »
Elle lui dit, « Normalement, l'on donne qu'à la famille. »
Il lui dit, « Je suis un de ses amis.
Vous n'êtes pas de la famille. »
Galien lui dit, « Mais, comme il voit qu'il ne peut y arriver comme ça, il lui dit, « Je m'appelle Galien Diap. »
Elle lui dit, « Je connais pas. Vous êtes de l'hôpital ?»
Il lui dit, « Non, je suis PDG du groupe Genetou. »
Elle lui fait, « Je connais pas. »
Il soupire, « Le groupe Genetou, la biotechnique, les greffes, c'est moi.
Je connais pas. »
Il soupire et lui dit, « Je veux voir le directeur de l'hôpital.
Il n'est pas là à 7h.
Il sera là quand ?
Demain, à 9h30. Mais si vous n'avez pas de rendez-vous, il ne vous recevra pas. »
Il lui dit, « Bien, je téléphonerai au ministre de la Santé pour avoir des nouvelles de mon ami. Merci. » Et il s'éloigne. Demain, à 9h30, il va à l'accueil.